surprise, motherfuckers.
Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre. On est de retour pour un mardi de plus, pas un mardi de trop, nouvelle émission. Nora est avec moi à la régie, comment tu vas Nora?
Ça va très bien, merci et toi?
Eh bien écoute, je me porte à merveille en ce mardi 9 avril.
Je suis ravie de l'apprendre.
Tout à fait, est-ce fou de moi en plus?
Non mais je ne voudrais pas.
Voilà, avec nous, exceptionnellement, on ne l'attendait plus. Après 2 semaines d'absence.
Moi j'ai eu des doutes au début, je pensais qu'il avait quitté l'émission.
Ouais, moi aussi. Hugo est de retour. Comment vas-tu Hugo?
Ça va super, je suis très très content d'être de retour. C'était absolument pas volontaire.
Tout content et tout mouillé.
De quoi?
Tout content et tout mouillé.
Ouais, c'est ça, j'ai couru sous la pluie.
Ouais, c'est vrai que, alors pour coup, on peut pas te reprocher. T'as pas été là les 2 dernières semaines, mais t'as rattrapé le coup. Tu t'es dit, cette émission, je vais venir en avance histoire de me préparer un peu.
Avec
il
des croissants.
Il est arrivé il y a 2 minutes.
Avec des croissants. Franchement, ça rattrape tout. Il a pris des croissants.
C'est vrai, tout à fait.
Pour la petite information rigolote, la dernière fois, je n'ai pas pu venir car je me suis enfermé chez moi. Je n'avais pas mes clés et j'étais tout seul dans mon appartement sans pouvoir sortir. Voilà.
Mais voilà. C'est bien parce qu'il a le premier réflexe, c'est s'enfermer chez soi, c'est chez lui en fait, mais il n'a pas le deuxième stade de ouvrir pour sortir. Peut-être que ça viendra un jour.
J'espère.
Peut-être. Donc voilà un petit peu. Lounis sera présent également. Il va arriver un petit peu plus tard. Voilà. Un rendez-vous qui a traîné plus que prévu.
Il se fait désirer.
Donc tout à fait. Mais lui, il a le droit parce qu'il est présent au moins aux émissions. le programme du coup d'aujourd'hui, on va parler un petit peu des événements qu'il y a eu dans la nuit de samedi à dimanche. Donc la Fight Night entre Brendan Allen et Chris Curtis. Numéro 2. On va parler également du français Morgan Charrière qui a combattu également, qui malheureusement s'est incliné. Et on reviendra évidemment par la suite de l'émission, ça va être le gros morceau, l'UFC 300. C'est ce week-end, ça y est, on est dans la Fight Week.
On a survécu jusque-là.
On est dans la semaine de combat, c'est ça, on a survécu.
De la plus grosse carte de l'histoire de l'UFC.
Peut-être, ouais. Franchement, peut-être, sûrement
ouais. Je pense sûrement. Ouais.
Certains diront que la 200 était peut-être mieux, mais bon, voilà.
Ça dépend du point de vue.
On va pas faire des débats comme ça. Dans tous les cas, on va pas bouder notre plaisir face à cette UFC 300. Oh. Et bien voilà un petit peu pour le sommaire. Donc installez-vous confortablement. On va passer la prochaine heure ensemble à parler de MMA. Et sans plus attendre, les actualités. Jingle.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
Donc comme je l'ai dit dans le sommaire, la première actu qu'on va traiter, donc on va discuter, c'est l'UFC Fight Night qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Et on va commencer un petit peu par le combat du français Morgan Charrière qui s'est incliné malheureusement sur décision partagée. Un combat très serré, très spectaculaire, une vraie guerre. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce combat?
Alors, j'ai été très impressionné par la performance de Morgan. Bah d'ailleurs, je le regardais tout seul, mais je vous ai envoyé un message pendant le combat, avant la fin du combat, en disant qu'il gagne ou qu'il perde, bah, il s'est vraiment amélioré et il nous montre vraiment des très très belles choses, quoi, Morgan. Donc au final, oui, c'était très serré, ça aurait pu aller dans les deux sens. Mais oui, le premier round était pour c'est quoi son nom déjà, Mariscal.
Mariscal, c'est tout. Mariscal. Chepe Mariscal.
Chepe Mariscal. Donc le premier était pour lui, ça, il y a pas trop de doute. Après, bon voilà, les deux autres, ça pouvait aller. C'était très serré, mais ouais, on a vu de très très belles choses de la part de Morgan. Particulièrement contre la cage, il y a une séquence où il est contre la cage et où il fait des esquives.
De toute façon, c'est ce qu'on disait un petit peu dans la preview avec Lounis, une des grandes forces de Morgan, c'est sa vivacité et ses esquives notamment.
Voilà, mais du coup cette séquence là en particulier qui est vraiment très belle, c'est il fait des esquives à la Matrix face à un boxeur qui est quand même Chepe Mariscal, c'est un boxeur qui envoie qui a beaucoup de volume et beaucoup de puissance. Donc voilà, et il se permet de faire des esquives à la Matrix face à lui pour au final esquiver un crochet et partir en takedown juste derrière quoi. Et c'était vraiment très très beau. Donc voilà, bon, il n'y a pas eu que ça. Il a fait d'autres très belles choses aussi, mais voilà,
bah, globalement,
c'est un exemple.
Ouais, globalement, on a eu le droit à un combat en striking principalement, même s'il y a eu quelques phases au sol, mais bon, c'était vraiment c'était beaucoup plus tempéré. Ouais. On voyait que les deux combattants, ils étaient beaucoup plus à l'aise debout.
Ouais, mais très propre en tout cas, Morgan.
Ok, et ben voilà, donc Morgan, malheureusement, donc tu l'as dit, on l'a dit, c'est une défaite par décision partagée, c'est-à-dire que tous les juges n'étaient pas d'accord. Il y a un juge qui a donné le combat à Morgan, et les deux autres l'ont donné à son adversaire, donc Chepe Mariscal. C'est une défaite un petit peu rageante hein, pour Morgan qui a... En fait, souvent, il a eu des combats serrés, et à chaque fois, la pièce, elle n'est pas tombée du bon côté, donc... C'est un petit peu le malchanceux des combattants de MMA français.
Bah, c'est un peu les seules défaites qu'il a eues, je crois.
Tout à fait. Il y en avait une contre Paul Vucenic et une. Je sais plus si c'est Paul son prénom, mais contre Vucenic au Cage Warrior et contre Paul Huge. Donc également au Cage Warrior, c'était ses deux dernières défaites en date avant qu'il enchaîne les victoires et qu'il signe à l'UFC. Donc. Et ouais non mais c'est vrai comme tu l'as dit d'ailleurs petite anecdote, je suis en train justement de remonter notre conversation de groupe qu'on a avec les membres du Bagarre Club. Je cite Hugo dimanche 1h26, Morgan est un grand monsieur, qu'il gagne ou qu'il perde, c'est magnifique ce qu'il nous fait.
Donc un beau moment d'amour.
Ah c'était vraiment ça, j'étais vraiment impressionné.
Non ouais tout à fait Morgan donc performance impressionnante, malheureusement ça suffit pas. Est-ce que malgré tout, du coup, ça peut un petit peu nous alerter sur certaines limites qu'il peut avoir, peut-être dans la maîtrise, un petit peu dans la gestion des moments forts et des moments faibles ?
Je pense que c'est des ajustements qu'il a à faire qui sont... c'est mineur, hein. Vraiment. Il y a des trucs qu'il doit revoir, mais je ne me donnerai pas la... Comment dire ? Je suis pas assez, j'ai pas une assez bonne estime de moi pour dire que j'arrive à voir ce qui doit changer. En fait, pour moi, il a vraiment fait. Enfin, je l'ai vu plus technique et plus propre. Bon, ce qui veut pas dire meilleur, mais quand même, je l'ai vu plus technique, plus propre et plus intelligent que son adversaire. Mais voilà, je pense que j'allais dire un truc complètement con. J'allais dire, peut-être il aurait dû faire plus d'efforts pour gagner. non mais je rigole, mais enfin voilà, peut-être
essayer d'être un petit peu plus dans la maîtrise et peut-être moins
essayer
d'aller
en... Ah mais il était dans la maîtrise. Ouais. Il était très en maîtrise tout le long du combat. C'était vraiment, c'est justement ça qui me pose problème parce que souvent quand un combattant a une défaite comme ça un peu serrée. Un combattant qui arrive à l'UFC comme ça, on a tendance à dire ah ouais, c'est souvent qu'il se laisse emporter quoi. Alors que là, il s'est pas laissé emporter, il a fait un beau combat intelligent. Bon, c'était.
Il est tombé sur ce soir-là face à plus fort que lui, on va dire.
Bah, je sais même pas si j'irais plus
ouais,
fort que
plus
lui.
Fort, ouais.
Alors après, avec Desi, on met Paris en bouteille, comme on dit. Mais
on dit pas ça. Hein.
Si,
ça existe. Ça, ouais. Et on se moque de mes expressions. Hein.
Non, mais c'est bon, l'église au milieu du village. Mais bref, ça c'est une private joke pour les membres, pour les
suiveurs
auditeurs assidus du Bagarre Club.
Ailleurs qu'au Bagarre. Pardon, je l'ai entendu ailleurs qu'au Bagarre Club, perso, j'ai pas que tout.
Laura, visiblement, une journée difficile.
Non, c'est compliqué, là.
Du coup, revenons-en à nos moutons. Morgan Chariard, donc ouais, il a manqué pas grand-chose, en fait, tout simplement. C'est
oui,
ça que t'essayes
oui,
de dire.
C'est ça. Et même, il y a eu des moments où il a vraiment mis Mariscal en danger, j'ai eu l'impression. Il y a eu des moments où Mariscal a pris des coups... Moi, j'aurais dormi rapidement. Enfin, je suis pas combattant UFC, mais
voilà. Donc, Morgan. Dans tous les cas, c'était un très beau combat.
Ouais.
Il a été élu désigné Fight of the Night. Donc, c'est les
combat
bonus que l'UFC distribue à chaque soirée. Donc, Fight of the Night.
À juste
en gros,
titre, d'ailleurs.
C'est le combat le plus intéressant de la soirée, le plus divertissant,
le plus palpitant.
Le plus palpitant. Voilà, tout à fait. Donc, pour Morgan, on peut dire une défaite rageante, mais une défaite encourageante. Ça s'est bossé.
C'est pour ça. Je me disais, c'était bizarre que t'aies mis rageant. Je trouvais ça bizarre comme mot, mais en fait, tu préparais ton jeu de mots.
Ah, ça c'est
beau.
C'est des heures de travail et de travail.
Oh tout là simplement. Là.
Donc la suite pour Morgan, je pense que l'un comme l'autre, on n'a pas forcément de combattant en tête. Ce qu'il va falloir, c'est continuer un petit peu d'enchaîner, essayer.
Oui,
de
il faut prendre au-dessus.
Ouais, c'est ça. Continuer, essayer d'enchaîner un petit peu les combats, pas trop d'attente. et voilà, et
à savoir
le travail
que,
se fera tout seul.
C'est ça. À savoir que Mariscal était classé beaucoup, beaucoup plus haut que Morgan dans le classement
oui, c'est
international
ça.
Bah, des poids plumes.
C'est surtout que de base, il ne devait pas affronter Chepe Mascal. Il avait un autre adversaire dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez.
Oui,
il y a un ou deux mois, il a dû changer pour trouver un nouvel adversaire parce que Morgan a voulu absolument combattre.
Oui, mais bon, c'est pas.
Donc, mais oui,
je pense qu'il y a aussi le fait que bah, le mec est. Enfin, là, Morgan a fait un combat très très serré face à un mec qui est vraiment beaucoup mieux classé que lui. Je me rappelle plus exactement des noms. Je me rappelle que les commentateurs disaient ça pendant le combat. Mais oui, il est vraiment beaucoup beaucoup mieux classé que Morgan à la base.
Tout à fait. On va passer donc au deuxième combat de la soirée. Donc le combat qui a eu lieu entre c'était le main event du coup de cette Fight Night. Brendan Allen, donc un petit peu l'étoile montante des poids moyens, contre Chris Curtis, qui est lui un vétéran. Et on a eu du coup une victoire de Brendan Allen sur décision partagée, si je dis pas de bêtises. Donc comme avec Morgan Charrier, deux juges ont donné victoire à Brendan Allen, un juge a donné victoire à Chris Curtis. Et du coup Allen qui enchaîne une nouvelle victoire, c'est la huitième consécutive.
Donc, face à quelqu'un qui l'avait battu à la base.
Face à, voilà, donc Chris Curtis était le dernier adversaire à avoir battu Brendan Allen en date, tout simplement. Donc voilà un petit peu, Brendan Allen qui enchaîne, victoire convaincante une nouvelle fois.
Bah oui, mais du coup j'ai regardé, j'ai profité que j'étais en live devant Morgan Charrière pour continuer à regarder la suite des combats. Et oui, en fait, moi ce qui m'a impressionné c'est la boxe de Allen, parce que Chris Curtis c'est quelqu'un qui bah, c'est un boxeur. Hein.
C'est un striker, tout simplement.
Oh, c'est même un boxeur, ouais. Hein. C'est même pas un striker. Je sais même pas s'il y a eu un leg kick pendant tout le combat. Non, j'exagère, mais voilà, ça a pas dû être. Il n'y a pas dû avoir beaucoup de leg kick.
Alors que, mais voilà. Petit événement au studio, Loomis est arrivé parmi nous. Salut Loomis.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
Voilà, donc tu es avec nous pour notre plus grand plaisir. Ça va rien de.
Non, tout va très bien. Je suis heureux d'être là, mais oui, du coup, j'ai eu un petit peu de retard. Veuillez m'excuser.
Il est furtif.
Mais il n'y a pas de souci.
Nous, on t'excuse tous.
Tu as vu le combat entre Brendan Allen et Chris Curtis?
Je vais pas mentir, je ne l'ai pas regardé. Je me suis arrêté à Morgan Charrière contre
Mariscal.
Tu l'as vu en live?
Je l'ai regardé en live. En revanche, je l'ai vu en direct.
Connaissant ton.
J'étais un peu frustré, mais ça me dit donc que le combat a servi de leçon à. On aurait pu se dire, ah oui, bon, ils ont donné Mariscal à Morgan Charrière pour qu'il puisse décoller, parce que bon, Mariscal, personne ne le connaît vraiment ou ne savait quelles étaient ses capacités ou ses facultés martiales. Et bon, c'est, voilà. Ça rappelle qu'on peut jamais vraiment se fier à l'apparence d'un combattant ou se dire, mince, Morgan Charrière va complètement le terrasser parce qu'on le connaît pas. Non, c'est, la preuve en est. Le combat était très, très disputé. J'ai été très surpris. C'est une défaite un petit peu frustrante pour Morgan Charrière, mais il a pas du tout démérité. Je suis très heureux de ce qu'il a proposé ce soir.
Donc voilà, Loomis à peine arrivé, on le jette dans le grand bain à faire des grandes analyses et des grandes tirades. Donc, voilà.
On le jette dans le grand bain et il fait ça. Un 100 mètres à la nage en une minute.
Exactement. On avait dit qu'il s'appelait l'encyclopédie au départ, tu vois.
Oui, c'est vrai.
L'encyclopédie, elle a gagné qu'une seule fois son titre au quiz du Bagarre Club, hein, donc bon. Donc,
ce qui t'empêche de dormir la nuit d'ailleurs.
Oui.
Tout à fait. Donc du coup, voilà ce qu'on peut dire pour Morgan Charrière. On a rapidement fait un tour sur Allen Curtis, on va pas débattre plus longtemps, juste dire que bah, Brendan Allen continue son ascension,
qui s'améliore, surtout la boxe de Brendan Allen,
voilà,
il a bien tenu tête à Chris Curtis.
Sur tous les points, donc moi personnellement c'est un combattant, j'ai hâte de le voir. C'est ce qu'on avait dit avec Loomis sur la preview la semaine passée, c'est un combattant qui amène un petit peu de sang frais à la catégorie, qui je pense on a un petit peu besoin en poids moyen en ce moment.
Surtout un profil un peu de lutteur, à part peut-être Chimaev qui vient d'arriver là chez les...
Salut, t'es pas...
C'est pas la même... C'est ce qu'on disait.
Non, c'est pas la même lutte, mais je veux dire...
S'il y a pas de
le
lutte.
Sol, le sol, voilà pour qu'on se comprenne.
Parce
voilà.
que Allen, il avait du mal avec les takedowns. Il a du mal à rentrer en takedown.
Le sol, disons.
Je suis d'accord.
Voilà, du coup, on va s'arrêter là un petit peu pour la Fight Night. On va pas aller plus loin parce qu'on a une grosse actualité sur l'UFC 300 qui arrive juste après. On s'écoute la première musique. C'est Nora qui gère les musiques. On met laquelle en première?
On va mettre Maneskin, For Your Love.
For Your Love. Exact. Eh ben c'est parti. Musique et on revient juste après pour parler de l'UFC 300.
the first man you look at tonight. Wanna be stuck in your head, make you go wild. I wanna drive you till the morning light and I wanna leave you alone.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a déjà fait un petit tour des actualités qu'il y a eu le week-end passé, donc la Fight Night entre Brendan Allen et Chris Curtis. On va s'attaquer maintenant au gros morceau, le gros événement de la semaine, que dis-je ? Le gros événement du mois ? Que dis-je ? Le gros événement de l'année ?
Que dis-je ?
De la décennie ?
De la décennie !
Non, stop ! Allez, voilà, c'est bon. Désolé. Je sentais venir.
Non, mais t'as raison, on était parti pour
là,
tout
ça
faire.
Ça va durer, là.
Ouais. Non, peut-être pas. Déjà, l'année, oui, la décennie, on va voir.
On va attendre, tout à fait.
Avant que t'arrives, on disait plus gros événement MMA de tous les temps.
Pas loin,
voilà,
en termes de cartes, pas loin.
Voilà, il y avait des bagues de 200, mais voilà.
Sûr de la mesure.
Tout à fait. L'UFC 300, évidemment, qui aura lieu donc, dans la nuit de samedi à dimanche en direct de Miami, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, il me semble que c'est bien ça, c'est en direct de Miami.
T'es sûr ?
C'est pas ouais. Las Vegas ? D'accord.
Tu maintiens ton choix ? Miami.
Je maintiens mon choix tout à fait. T-Mobile, dans le Nevada, donc on y est pas.
C'est Las Vegas.
La géographie, c'est vraiment pas son truc.
Il y en a qui n'ont pas l'air de voir, hein, c'est terrible.
Ouais. Miami, c'était pour lui, c'est 299. Pardon.
C'est pas grave.
Du coup, en direct de Las Vegas, la T-Mobile Arena, qui est un petit peu l'arène où il y a les plus gros événements de l'UFC. Oui. C'est un peu leur arène phare. La semaine passée, si vous nous avez écoutés, on a un petit peu fait le tour des cartes préliminaires. Donc c'est un petit peu les cartes avant le gros du gros. Et
Non, rien.
D'accord. Et du coup, là on est à J-4 de l'événement. On va parler évidemment de la main card, les combats, donc les 5 combats principaux qui auront lieu cette nuit, donc la nuit de samedi à dimanche. Premier combat. Le premier combat, il peut étonner un petit peu. Lounis, en off, il râlait un petit peu parce que c'est un combattant qui a rien à faire en carte principale.
Bah oui.
Alors, Bonical, c'est débattable.
Bonical contre Cody Brundage. Pourquoi ce combat est en carte principale? Il faut savoir qu'aucun des deux combattants n'est dans le top 15 de leur catégorie. Mais on a Bonical. Bonical qui est peut-être le très très gros prospect à venir de l'UFC dans le MMA, c'est peut-être la future poule aux œufs d'or pour l'UFC. Seulement 5 combats en MMA, 5 victoires, 0 défaites. Donc déjà, même si c'est pas beaucoup, c'est soulignable.
Victoires très impressionnantes.
En plus, voilà, c'est ça. Donc Bonical, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ce combattant?
Il est, je crois qu'en fait, ce qui participe un peu à la hype qui est autour de lui, c'est le fait qu'il a gagné ses 5 combats, il a aucune défaite, il est jamais allé jusqu'à la décision, je crois même qu'il est jamais allé jusqu'au 3e round et il a terminé tous ses adversaires par KO. Comment?
Il est allé au 2e?
Ah, je sais même pas, hein.
Je suis même pas sûr.
Je suis même pas sûr qu'il soit allé au 2e.
Pas l'UFC. Hein. Pas l'UFC.
Mais donc, bref, c'est un combattant qui a pas, c'est ça qui est assez particulier, c'est que c'est pas un trash talker, quelqu'un qui est particulièrement loquace, un peu comme un Ramzat Chimaev et dont, dont la montée s'expliquerait aussi par ça, par ses prouesses vocales, si je puis dire, en conférence de presse. Non, c'est juste qu'il est martialement, d'un point de vue purement de combattant, il est très très fort, très solide.
Technique.
Très technique. Et il y a beaucoup d'appréhension, parce que juste, enfin, d'appréhension, d'attente, parce qu'il est jeune, il est invaincu, il a beaucoup d'ambition. Je pense aussi que le fait qu'il soit,
il est champion de lutte, c'est un truc comme ça, voilà. Il a beaucoup de titres en lutte.
C'est ça.
Donc, tout à fait, Bonical. Donc, du coup, ouais, il a jamais été plus loin que le premier round. Il a jamais dépassé les 3 minutes de combat.
Oh, le nul.
Donc, il est très fort. Il est très, très fort.
Donc, voilà, très spectaculaire. Et vraiment, ils l'ont mis. En fait, quand les premiers combats pour l'UFC 300 ont commencé à être un petit peu pas annoncés, mais il y a eu les rumeurs qui sont tombées.
On se doutait que Bonical serait sur la carte d'une manière ou d'une autre.
Ça en parlait comme le combat d'ouverture carrément. Donc pas d'ouverture de la carte principale, mais d'ouverture carrément de la carte préliminaire.
Ce qui aurait été plus à propos, je pense.
Tout à fait.
Sportivement parlant, oui.
Voilà.
Pourquoi?
Parce que comme Aurélien l'a dit tout à l'heure, aucun des deux est dans le top 15 en fait. Donc
devant
Jiří Prochazka quand même, je rappelle.
Ah mais c'est ça en fait, ouais. C'est parce qu'il est devant.
Non mais devant Jiří et devant Aljamain Sterling contre Kelvin Kattar. Enfin
alors Aljamain Sterling.
C'est une question de classement en fait.
Ouais. Aljamain Sterling, Jiří Prochazka qui était champion il y a 2 combats. Donc ça pose un peu question.
On en est là hein, quand même. Enfin,
certes, ils ne le sont plus maintenant, mais
en soi, ils devraient même pas être devant le combat d'ouverture de la carte.
Devant...
C'est-à-dire Cody Garbrandt contre Davison Figueiredo.
Oui.
Sportivement parlant, mais on parle de l'UFC 300. Il doit aussi y avoir. Il peut pas y avoir que du sportif. Il faut aussi qu'il y ait du show.
Je suis d'accord.
Bonical, il fera le show.
Je suis d'accord. Tout à fait.
Et du coup, en fait, s'il est aussi bien placé, on va dire, sur la carte, c'est vraiment un moyen pour l'UFC de le booster. Ils l'ont mis contre un Cody Brundage qui est en 10-5. C'est pas un bilan exceptionnel.
Ah ouais, lui, pour le coup, Cody Brundage...
Il a été envoyé au charbon, à l'abattoir.
On pourrait faire tellement de mèmes sur lui. C'est vraiment... T'as l'affiche de l'UFC 300 et t'as tous les monstres absolus, les mecs hyper connus, etc. Les meufs hyper connus. Et t'as Cody Brundage et personne ne reconnaît son visage. Il n'y a que lui qu'on connaît pas.
Par contre, il a tout à gagner. C'est-à-dire que si lui, il gagne...
Oui.
Et qu'il bat Bonical par finition ou quoi. Alors, mais c'est Jetpok. Hein.
Ça peut être magnifique.
Jetpok.
Non, parce que sportivement, comme tu l'as dit, sportivement parlant, Cody Brundage, c'est pas ça.
Ouais, mais enfin, s'il bat Bonnie Cal, s'il bat la future grosse révélation.
Ça va, mais s'il peut pas jouer derrière.
Non, mais je vais te dire, tout le monde, bon, je pense pas que ça arrivera, mais tout le monde avait dit la même chose de Masvidal contre Ben Askren, on a vu ce qui s'est passé. Mais remis dans le contexte, hein, c'est-à-dire que vraiment, Masvidal avait été envoyé à Ben Askren comme littéralement un agneau en abattoir, tout le monde se disait. Enfin, Ben Askren va le dominer en lutte, il va le soumettre au premier round, ça va être terminé. Bon. Pour ceux qui savent pas, qui ne sont pas au courant de comment le combat s'est terminé, je vous laisse regarder sur YouTube. Mais non, disons qu'on peut,
le dire quand même,
on peut avoir des surprises, quoi.
Mais en gros, pour ceux qui savent pas, Jorge Masvidal contre Ben Askren, c'est le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC.
C'est quoi le timing?
5 secondes.
En fait, il y a le moment où il se prend, il y a le moment où il se prend le coup. Ouais. Et le moment où l'arbitre essaye d'intervenir pour stopper le combat. Donc le moment où le combat se stoppe, il est un petit peu après le KO.
Ouais.
Donc voilà. Donc officiellement, je crois que c'est 9 secondes.
Non, mais... ça c'est Baki Doumbé, ça. Doumbé Zebo, je crois.
Non, mais il me semble que c'est. Ouais, c'est peut-être 13 secondes.
Enfin, voilà, super avec les combats rapides.
Bref, c'est moins de 15 secondes, tout simplement.
C'est monstrueux.
Okay. Donc,
ça reste de la perf exceptionnelle. Quoi.
Donc on a digressé parce que le sujet c'est ni Ben Askren ni Masvidal.
Mais c'était juste. Je parlais de ça pour remettre en contexte.
Mais du coup, ouais, Cody Brundage, le pauvre, il est un petit peu envoyé à l'abattoir. On s'attend tous à une victoire expéditive.
Bien entendu.
De
bien entendu.
Donc, prono rapide, les gars.
Je pense que Bonnie Cal va essayer de faire le show d'une manière ou d'une autre, mais peut-être KO, probablement. KO, ouais. Ouais, c'est un lutteur, mais comme il l'a montré dans son dernier combat, je mettrais bien un KO au premier round pour
KO
Bonnie
Cal. Un. Hop. Hugo.
Bah, moi, je vais pas mouiller sur le KO ou la soumission, parce que je pense qu'il peut aller dans les deux sens.
Ah, mais il faut
mais finalement, ce sera finition round 1, ça c'est sûr.
Ouais, KO, soumission.
Enfin, c'est sûr. Je pense qu'il y a de très grandes chances. Pour aller à l'inverse de Lounir, je vais dire soumission. Mais ça peut partir en KO aussi. Pour moi, c'est du 50-50, vraiment.
Moi, je vais aller sur KO pour Bonnie Cal, mais round 2.
Voilà. Oh ouais. Ouais, ouais. Oh, que Brundage survive le premier round.
C'est risqué, ce que tu dis.
Risqué, ouais, c'est
mais j'ai envie de... Je sais pas, je me dis, le round 1, c'est trop facile. Tu vois, encore un, je me dis, bon... Hein, allez, un petit peu de folie, un petit peu de résistance. J'aimerais bien le voir au moins galérer pendant 3 minutes, quoi. Je sais pas. Même sans forcément galérer, tu vois, mais...
Ne pas soumettre tout de suite, quoi.
En fait, bah, j'aimerais bien avoir un peu de contenu pour analyser ces combats, en fait. Parce que
c'est vrai qu'on n'a pas grand chose
à. C'est pas à peine 5 minutes qu'on va réussir à faire quelque chose.
On l'a à peine vu combattre pour l'instant. Donc...
Bah voilà, c'est ça. Il finit trop vite, tout simplement. Bonnie Cal, du coup, qui termine son adversaire par KO soumission, c'est les pronos un petit peu de l'équipe. On va passer au combat suivant. Ah, celui-là. Oui. Celui-là, va y avoir du débat.
Il va y avoir de la discussion.
Charles Oliveira. Le combattant préféré d'Hugo.
Il n'y a pas débat. Il n'y a pas de débat. C'est...
Voilà. Qui va affronter Arman Saroukian. Choc chez les poids légers. Vraiment un choc. Le vainqueur de ce combat aura probablement accès au prochain
title
combat.
Shot.
Au title shot. Tout à fait. Ouais. Donc contre Islam Makhachev, le champion. Charles Oliveira, les gars. Parlez-nous de Charles Oliveira.
Je vais laisser Hugo commencer et puis je m'y frotterai après. Mais
ah, t'es gentil.
Honneur à toi.
Charles Oliveira, qui a été un champion très dominant jusqu'à son combat face à Islam Makhachev. Donc mon combattant préféré, mais pas pour rien, parce que il vient du jiu-jitsu à la base, très très bon sol, très très bon jiu-jitsu du coup. Ce qui lui a permis de développer un style où il s'engage beaucoup en striking. Et en fait, du coup, il a un très bon striking, un très bon sol. Et il peut se permettre de surengager en striking parce que s'il se fait amener au sol, bah, il saura qu'il a l'avantage. Et ça a marché face à des très gros noms comme Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler,
Tony
Ferguson.
Il a vaincu un petit peu tous les monstres de sa catégorie.
Bah, il a lavé la catégorie.
J'oubliais ça, mais là, je viens de voir son record. Il est à 34 victoires pour 9 défaites.
C'est vraiment beaucoup.
Il y a des records comme ça, t'en as très très peu. Et c'est le combattant à l'UFC qui enregistre le plus gros nombre de finitions. Je crois qu'il a 23 ou 24, quelque chose comme ça. C'est n'importe quoi.
De finitions et de soumissions.
Étant donné qu'Hugo vient de présenter plus de manière succincte et très bien Charles Oliveira. Non, mais c'est vrai. Donc, Arman Saroukian à côté. Mais moi, je trouve que c'est un choix qui est assez intéressant parce que je trouve que les deux ont un profil assez
similaire. Hein.
Similaire. C'est des gros finishers, faute d'un meilleur terme. Hein. C'est deux combattants qui aiment terminer leur adversaire soit par soumission, soit par KO. Mais en tout cas, ils n'aiment pas quand ça se termine à la décision. Ils sont très, très agressifs, très retors. et ils mettent vraiment tout ce qui est possible pour justement obtenir une finition. Le dernier combat de Tsaroukian contre Benny Dariush, c'était un carnage, mais je crois qu'il l'a eu par head kick, me semble-t-il, je crois.
Ouais, genou, un truc comme genou, ça. Enfin, qui était
bref, KO. Je me rappelle. Tsaroukian contre Dariush.
Ouais.
Non, c'était coup de poing.
Coup de poing.
Oui, peut-être.
Ouais, il a mis un genou et...
Oui, c'est le
en
genou
reposant le genou,
a...
il a fait
ouais,
un espèce de Superman punch sur place.
Bah, donc ouais, un choc vraiment explosif pour le coup et je suis vraiment fébrile. J'ai très très hâte de voir le combat.
Ah, ça va être. Moi, je pense que ça peut être combat de la soirée.
Yeah. Moi, j'ai très très hâte de voir Tonton Charles renvoyer Tsaroukian dans le top 15.
Tu y crois ? Donc oui, c'est vrai que parce que faut le dire aussi, c'est vrai que moi j'ai un peu l'impression que limite on va peut-être assister à une passe d'armes entre les deux. Sachant qu'on l'a dit, il y a des similitudes dans leur style de combat. Arman Tsaroukian est plutôt sur le come-up, comme on dit en français. Excusez-moi, j'ai plus le terme. Sur...
Le come-up ?
Non,
c'est une étoile montante.
Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait.
Oui, voilà.
Et
sur la pente ascendante.
Et Charles Oliveira, je pense qu'il a encore des choses à montrer. Hein. Il a encore de quoi faire. Mais c'est vrai que c'est un combattant qui est un peu plus âgé, qui a... On va dire le plus gros de sa carrière est derrière lui, même s'il a encore des choses.
Il a commencé sa carrière très 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 jeune.
Il a 34 ans effectivement. Mais donc Charles Oliveira, disons, il est installé depuis plus longtemps.
Oui.
Et je pense pas qu'il va repartir sur
un
run.
Il a atteint son apogée que très récemment.
Le gros de sa carrière est derrière lui, et puis bon, il a juste à regagner le titre et prendre sa retraite après, quoi.
C'est ça, tout à fait.
C'est ce qui va se passer. Hein.
Oui, bien sûr. Votre pronostic, les gars.
Je vais honnêtement, c'est très difficile, mais juste parce que j'ai envie de voir Charles Oliveira nous sortir un de ses discours d'après combat légendaire, comme il en fait tellement en portugais, mais en fait, il est tellement stylé que même quand il parle en portugais et que tu ne comprends pas ce qu'il dit, tu as quand même envie de l'écouter. Donc, je vais dire Charles Oliveira par soumission au deuxième round.
Oliveira par soumission deuxième round. Hugo, je t'écoute. Oliveira, finition premier round, c'est ça ?
Ah, ce serait magnifique.
Quelle finition, tu penses ?
Une armbar.
Ah, dommage. Non, je vais dire Tsaroukian KO au premier round.
Je crois que c'est même ma soumission préférée, l'armbar.
Ok, mais du coup...
Non, c'est pas vrai. Non, Oliveira KO au premier round.
Ah oui,
Je pense que...
Ouais. C'est comme contre Darius, quoi.
Ça va faire la bagarre.
Ouais.
J'aimerais moi, j'ai envie de voir Hugo s'énerver, je vais mettre Tsaroukian KO au deuxième round.
Mais non, mais c'est pas impossible. Hein.
C'est pas impossible.
Mais non, mais c'est le premier qui fera une erreur. C'est pas compliqué.
Les deux sont tellement létaux que ça va être...
C'est vrai que... Parce qu'en fait, moi, je me fie un petit peu au point faible principal d'Oliveira, c'est qu'il encaisse pas très bien les coups. Il se fait souvent sonner.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, en fait, Oliveira, souvent, il se fait sonner. Et s'il est un peu sonné, hop, tout de suite, il se met sur son dos en mode vas-y, viens au sol. Sauf que ça marche contre Dustin Poirier, ça marche contre Chandler.
Ça n'a pas marché contre
les mecs qui ont un gros niveau au sol comme Marachev ou comme peut l'avoir Tsaroukian. Je dis pas que Tsaroukian a le niveau de Marachev, mais.
Je comprends que sur le papier, Oliveira part perdant, mais.
Non, j'irai pas jusque-là. Mais je sens.
Statistiquement. Genre, je pense que j'ai pas essayé, j'aimerais bien, mais je pense que je connais déjà la réponse. Si on demande à une IA d'analyser et de donner le pronostic le plus probable, je pense qu'il va donner Tsaroukian gagnant. Et en fait, le truc, c'est que si on se base que sur des statistiques en mode sur le style de combat, etc., on aura toujours tendance à se dire ah ouais, Oliveira va partir perdant, va partir avec un désavantage face à Tsaroukian. Sauf qu'en fait, ça fait une dizaine de combats qu'on dit ça. Genre face à Ferguson, les gens disaient il part avec un désavantage.
Non.
Face à Gaethje, face à Dustin
Poirier, face à Ferguson. Ferguson, honnêtement, même moi, et j'étais fan de Tony à ce moment, j'ai dit c'est chaud pour reprendre. C'est compliqué pour Ferguson à ce moment-là. Mais bref.
Enfin, en tout cas, face aux gros noms justement. Oui.
Ça par contre, je suis d'accord.
Donc Chandler, Poirier, Gaethje, on le donnait perdant et en fait, il défie toutes les probabilités, Charles Oliveira.
Tout à fait. Donc voilà, Oliveira Tsaroukian, c'est un combat très attendu, un des plus, je pense, c'est peut-être pas le, mais un des plus attendus de cette.
Moi, c'est celui que j'attends le plus.
Bah, c'est un combat qui est vraiment déterminant pour la suite de la catégorie des poids légers et c'est la catégorie la plus relevée et l'une des plus regardées de l'UFC. Donc ouais.
Donc voilà, tout simplement, peut-être le combat sportivement le plus intéressant en tout cas. Combat suivant, le dernier avant qu'on attaque, qu'on fasse une dernière pause et qu'on attaque les deux derniers. Wei Li Zhang contre Yan. contre, pardon, j'ai plus son prénom, je suis désolé.
Yang Jiwan.
Voilà, tout simplement. Combat donc chez les femmes, chez les poids pailles féminins, tout simplement.
Oui.
Wei Lizhang, donc qui est championne récente de sa catégorie,
oui.
Mais qui sur ses deux derniers combats a été
impériale, la Chine impériale. La grande Chine. Il y a pas d'autre mot.
Ouais, tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce combat? Est-ce que vous pensez, parce que je vois un petit peu le bilan de son adversaire, Yang Jiaonan. C'est quand même 18 victoires pour seulement 3 défaites.
Oui, oui. Non, elle a de la bouteille. Je pense qu'elle a les armes pour répondre de manière suffisante à Wei Lizhang. C'est compliqué à pronostiquer comme combat.
Moi, je l'ai dit auparavant et je vais le redire maintenant.
Proportion gardée.
Ouais, toute proportion gardée, exactement. C'est exactement ce que je cherchais. Il est trop fort. Toute proportion gardée, pour moi, Wei Lizhang, c'est Alexander Volkanovski chez les femmes. C'est vraiment, elle est.
Ouais, tu pousses peut-être. Mais
je pousse un petit peu parce que on l'a pas beaucoup vu encore à ce niveau-là récemment. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le dernier combat que j'ai vu d'elle, j'étais vraiment en mode putain, c'est vraiment ça, quoi. C'est propre techniquement. Elle fait un combat intelligent. Elle maîtrise du début à la fin. Si elle finit, c'est pas comment on dit, c'est sloppy en anglais. C'est pas moche, quoi. C'est beau, quoi.
Bah, à moins d'avoir un énorme éclair de génie comme ça a été le cas. Donc entre Rona Mayuna, Sami Kao, Wei Lizhang par un coup de pied à la tête et donc elle a gagné comme ça le titre des poids pailles féminins qui étaient détenus par Wei Lizhang, à moins d'un gros coup de bol comme ça, enfin coup de bol, que vraiment la foudre s'abatte comme ça sur un instant sur Wei Lizhang et c'est terminé, elle peut plus se battre, c'est très très compliqué de la vaincre. Mais... elle est très complète et elle a un volume de frappe qui est vraiment vraiment flippant, quoi.
Son dernier combat en date, je crois, il envoie genre quasiment 300 frappes.
Je l'ai vu.
Et elle en reçoit genre 50, un truc comme ça.
Non, mais je l'ai vu contre Carla Esperanza, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait.
Terrifiant.
Mais du coup, oui, là, tu me donnes de la matière pour rajouter à ce que je disais. Le lien qu'on peut voir entre Alexander Volkanovski et elle, c'est qu'en fait, ils sont tellement intelligents, ils ont un tellement bon game plan et ils s'y tiennent tellement bien qu'en fait, justement, si t'as pas. Si tu leur rentres pas dedans, si tu les éteins pas.
Ouais, c'est ça.
Tu fais rien. Bah, Ilia Topuria, s'il avait fait un combat trop intelligent face à Volkanovski et qu'il avait voulu gagner la décision, ça ne serait pas arrivé.
Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour battre Wei Lizhang, faut être débile. Faut rentrer dans le tas, limite, et espérer.
Ah, faut pas être débile.
Faut avoir ce qu'il faut, je dirais, d'intelligence et de perception, de saisir la bonne fenêtre.
Faut essayer de finir.
Et de saisir cette fenêtre et juste envoyer la foudre. Mais vraiment, il faut être chirurgical.
Il faut concentrer toute ton intelligence sur un seul moment pour essayer de la dépasser, parce que sinon, sur la durée, elle sera toujours plus intelligente que toi. C'est
ça. Votre pronostic pour ce combat, les gars?
On peut en donner un à double
tranchant.
Du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant.
Tu vas dire quoi? Zhang par décision ou Yan par KO? Oui, il va dire ça. Allez,
on peut faire avec trois facteurs.
Non,
il m'en faut un seul.
Je pense.
Ça va être compliqué, ça.
Wei Lizhang par. C'est difficile, surtout les catégories féminines, c'est
moi,
pas simple.
Je le dis, j'ai Zhang par décision.
Ouais, la même. Non, je vais rester sur
Moi, je vais dire Zhang par KO. Mm-hmm. Allez, c'est en 5 rounds, donc.
C'est en 5 rounds, ouais, tout à fait.
Je vais dire. Allez, round 3.
KO 3. Allez. Hop. Et bien voilà, déjà donc pour les trois premiers combats de la carte principale, on va se faire une petite pause musicale. On s'écoute Oasis avec... c'est quoi le titre de la chanson, j'ai oublié.
C'est Slide Away.
Slide Away de Oasis. Donc voilà, on s'écoute Slide Away de Oasis et on revient tout de suite pour la suite de la preview de l'UFC 300.
My today fell from the top.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On est en pleine preview de l'UFC 300 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, le gros événement de l'année évidemment.
Que dis-je ?
Non, on va pas la refaire.
Et on a fait déjà la petite preview, les pronos des trois premiers combats de la carte principale. On va s'attaquer maintenant aux deux derniers combats, le main event et le co-main event. Justin Gaethje contre Max Holloway pour la ceinture BMF.
C'est donc, quoi la ceinture BMF ?
La ceinture BMF, traduction.
La ceinture de l'enfant de salaud le moins aimable.
Du plus méchant vilain garçon.
Ah, c'est donc,
The baddest motherfucker.
Ouais, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, ceinture pour les mecs qui se tapent beaucoup, tout
voilà.
Simplement.
Bon, c'est pas la ceinture des écoles d'ingénieurs, quoi. Globalement, on n'est pas là-dessus, quoi.
Tout à fait. Justin Gaethje contre Max Holloway. Justin Gaethje, qui c'est ? C'est un combattant très puissant pour sa catégorie, voilà. Qui tape très très fort, ouais. Gros volume, gros striker. Oui.
Gros cerveau.
non. Comme Hugo l'a dit ironiquement, c'est un combattant qui infléchit pas trop, juste il rentre dans le tas.
Mais il Max est Holloway, très technique, paradoxalement.
C'est vrai, Max Holloway, c'est pareil. Sauf que Max Holloway, il vient de la catégorie en dessous de base. Oui. Il monte de poids et on se demande un petit peu ce que ça va donner. Parce que Max Holloway, c'est pas quelqu'un qui a une grosse puissance de frappe de base. Une catégorie encore au-dessus, ça va peut-être être un petit peu limite. Lounis, tu as un prono clair net, tu as un scénario dans ta tête. Qu'est-ce qui va se passer ?
Je pense qu'on va voir Max Holloway se faire détruire round après round, comme ça a été le cas pour Tony Ferguson. Je pense que s'il y a un moment où sa fameuse mâchoire de fer va se briser, ça va être contre Justin Gaethje, parce que Justin Gaethje a la puissance de frappe. Max Holloway a jamais, peut-être une seule, à l'exception de Conor McGregor, il y a très longtemps, il a jamais rencontré un puncher comme Gaethje, et surtout un type qui mais vraiment lacère littéralement son adversaire petit à petit avec des frappes qui normalement te coupe un tibia sur le coup. Donc non, je pense que Justin Gaethje, s'il le met pas KO, il va infliger de sévères traumatismes à Max Holloway pendant 25 minutes.
Donc voilà, le prono clair n'était précis pour Lounis. Hugo, toi, t'es un petit peu plus mesuré cependant sur ce combat.
Alors je suis mesuré. Ce que vient de dire Lounis, c'est représentation logique qu'on se fait avant ce combat. C'est la prévision logique pour le coup. C'est le truc le plus intelligent que qu'il aurait pu dire.
Et comme toi, t'es pas intelligent, t'es pas d'accord.
Alors déjà, tu te calmes tout de suite, d'accord ?
On commence déjà par me parler poliment.
Mais oui, tu as raison. Comme c'est
en vrai premier degré,
oui, c'est la prévision la plus logique, le prono le plus logique. Mais comme vous commencez à le savoir si vous nous écoutez régulièrement, c'est pas toujours ce qui est le plus logique qui arrive. Et là, le plus logique, c'est que Max Holloway se fasse mettre KO par Gaethje. Mais moi, ce que j'ai envie qu'il se passe et qui peut potentiellement se passer, c'est que Max Holloway mette KO Justin Gaethje.
Non,
j'exagère. C'est toujours possible. C'est extrêmement peu probable vu la puissance de Max Holloway qui n'est pas très élevée en poids plume et qui sera donc probablement pas très élevée non plus en léger. Mais ce qui est un peu plus probable déjà, c'est que Max Holloway résiste au coup de Gaethje et qu'il gagne à la décision.
Mais visiblement, je suis désolée, je te coupe.
Vas-y.
Mais visiblement, ce que vous dites sur Max Holloway, pardon, c'est qu'il n'a pas une force de frappe qui lui permettrait de faire face
en fait,
comme il faut
non,
à Gaethje.
Pas contre Gaethje.
Mais quels seraient ses avantages ?
Le volume. En fait,
le
Max,
volume, la
c'est
distance,
ça.
La gestion de la distance.
Et son menton en titane.
Non, il ne faut pas compter sur son menton, pas dans ce combat.
Il faut compter sur son intelligence de combat, qui sait un petit peu plus gérer la distance, sait un petit peu plus gérer les temps, notamment les assauts de ses adversaires.
Okay.
Il faut compter sur son volume de coups. C'est un combattant qui envoie énormément, donc c'est vrai que ça peut user son adversaire. Ouais. Et il faut compter aussi sur sa résistance des coups, qui jusqu'à là, en fait, il a jamais été vraiment mis knockdown. En fait, il a jamais été sonné dans toute sa carrière. Et on pense, Lounis notamment, et je pense aussi, hein, ça peut tout à fait arriver. Justin Gaethje est le type de combattant qui peut, pour la première fois, faire vaciller Max Holloway. Ouais.
Et mais, du coup, voilà. Il devrait plutôt miser sur la durée, en fait, et tout sur le fait d'épuiser son adversaire.
Il faut vraiment être très très
sur...
intelligent contre. Il va devoir faire. Comme Gaethje, il peut pas faire la bagarre.
Et surtout, en plus, il a un petit peu tendance, Max Holloway. C'est le combattant qui a
à se reposer sur son menton, justement.
C'est ça. Et en fait, c'est le combattant qui a envoyé le plus de coups de l'histoire du UFC, mais c'est aussi celui qui en a reçu le plus. Donc, ce genre de méthode, ce qu'il a l'habitude de faire, Max Holloway, face à un mec qui tape aussi fort que Justin Gaethje, pour moi, ça va pas passer. Voilà, tout simplement. On va passer directement au prono, les gars. On va pas pouvoir s'étaler dessus énormément parce qu'on a encore le main event à faire. En vrai, il y a pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que c'est le combat. Moi, c'est le combat que j'attends le plus.
Mais c'est pas compliqué. Le seul prono qu'on peut faire, c'est Max Holloway par décision ou Justin Gaethje par KO.
Je suis un peu d'accord.
Non, je dirais Justin Gaethje par KO technique au quatrième.
Gaethje par KO. Oui, bon, KO technique, on s'entend.
Ouais, mais précisément.
Oh ok, t'es KO au quatrième ?
Ouais, quatrième.
Écoute, j'avais la même. Donc, voilà. Hugo, Holloway décision ?
Ouais, moi, je vais dire Holloway décision parce que j'ai envie. Non, tu sais quoi ? Écoute-moi bien. Max Holloway, KO cinquième round.
Max Holloway,
moi, j'ai envie de rêver, bon d'accord. Courage. Ah non, il y a 10% de chance, mais j'ai envie de rêver.
Après, c'est cohérent.
J'ai envie de rêver. Imagine si ça arrive vraiment et que j'ai raison. T'imagines la dinguerie?
J'ai envie de rêver Holloway par Flying Triangle. Round 1. Donc, Flying Triangle, c'est une soumission, les deux combattants. Spoiler, il n'y aura pas de face de sol sur ce combat.
Non, je pense pas, non.
Voilà, très, très peu probable. Le main event. Main event chez les poids lourds légers, donc l'avant-dernière catégorie la plus lourde de l'UFC, Alex Pereira, le champion en titre, qui combat l'ancien propriétaire de la ceinture, Jamal Hill, qui s'est blessé, qui a dû donc rendre son titre. Qu'est-ce qu'on attend de ce combat ? Crochet du gauche de Pereira à round 2, hein, on signe.
mais une grosse droite de Jamal Hill bien placée, ça ne pardonne pas. Hein. J'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, de donner la victoire de manière un peu trop hâtive à Pereira. Honnêtement, c'est un combat...
C'est les fanboys.
Mais moi, j'attends beaucoup de ce combat parce que vraiment, tout peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Je pense que, justement, la gestion des calf kicks de Pereira et justement ce crochet du gauche peuvent clairement jouer en sa faveur. Maintenant, la boxe de Jamal Hill, son clinch très taille, enfin, toutes ces choses-là, ça peut vraiment aussi être des armes contre lui, quoi.
Jamal Hill a un côté vicieux, hein.
Ouais.
Il a un côté un peu vicelard dans son striking qui peut un petit peu déstabiliser ses adversaires. Ça a été notamment le cas dans son dernier combat contre Glover Teixeira, tout simplement. Ouais. Le coach d'Alex Pereira.
D'ailleurs, si je peux me permettre, je vais faire une petite parenthèse sel, d'accord? Une petite parenthèse salée, comme ça c'est fait. Et après, je redeviens le chroniqueur objectif que je suis tout le temps. Déjà, la première fois, moi, il y a un truc qui me fait rire dans ce combat, c'est que t'as vraiment le mec le plus charismatique de tous les light heavyweight contre le mec le moins charismatique de tous les light heavyweight. Donc, Alex Pereira étant le plus charismatique,
voire le plus charismatique de l'UFC actuellement.
Ouais,
je suis
voilà.
Désolé.
Donc ça, au moins, on est d'accord là-dessus. J'ai du mal à supporter Jamal Hill pour ceux qui se rappellent. Et en plus de ça, moi, j'ai envie de dire, vu comment Jamal Hill a galéré contre Glover Teixeira, qui a 41, 42 ans, un truc comme ça, je pense que ça va être compliqué pour lui face à Alex Pereira, qui du coup a un très bon striking et qui a réussi à finir notamment Jiří Prochka, qui est un gros client.
Mais du coup, voilà. Peut-être un style un peu plus académique chez Alex Pereira, qui va juste attendre un peu l'ouverture et envoyer un gros crochet du gauche, qui souvent...
Comme ce qu'il a fait contre Sean Strickland, hein, typiquement.
Contre Sean Strickland, contre Jiří Prochka, contre son premier combat contre Adesanya en MMA. Donc voilà, deux gros strikers dans tous les cas, ça risque pas d'aller au sol non plus, on va pas se mentir.
On fait les petits pronos.
Le prono, ouais, rapidement, parce qu'il est 54, on a l'émission d'après qui attend dans le couloir, on les voit à travers la vitre du studio. Le prono, les gars, Pereira ou Jamal Hill, allez-y.
Pereira, crochet du gauche, bisous.
Quel round?
N'importe lequel. Crochet du gauche, je sais pas, j'ai pas le round.
Faut que tu m'en dises un.
Troisième.
Pereira, KO, 3. Hop, Hugo.
Pereira par tabassage au deuxième round. KO.
Pereira.
Par tabassage. C'est la technique.
KO 2. Et moi, j'avais marqué. Je retourne mes petits pronos. Vous m'excuserez. J'avais marqué Pereira, KO 3 aussi. Et je vais aller sur 4 finalement. Allez hop. Pour un petit peu. Pour pas qu'on ait le même avec Lounis. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission, on a un petit peu fait le tour de l'UFC 300, ne ratez pas ça, essayez au moins de regarder un petit peu les combats derrière en replay, parce qu'on va être sur vraiment un très 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 gros événement. ça va être vraiment, ça va être un petit peu la fête du MMA. Ça va être un grand spectacle continuel, tout simplement.
S'il y a un événement par lequel vous voulez commencer à regarder du MMA, commencez par celui-là.
Voilà, ouais. Tout à fait.
Je suis d'accord.
Après, vous allez me dire, il y aura peut-être pas aussi gros avant un moment, donc.
Ouais.
C'est vrai. Mais dans tous les cas, ouais, c'est un combat. Même les, si vous voulez pas vous coucher trop tard, même le premier combat vont être très intéressants. Ouais. Ce sera vers minuit, donc.
C'est des combats de main card, les.
Voilà,
les
tout à fait, des combats très intéressants. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Twitter et Instagram @lebagarreclub. Les podcasts vont être disponibles très bientôt, y compris ceux des précédentes émissions. C'est Hugo qui gère ça vu qu'il est de retour.
Ouais, je dois aller rattraper.
Voilà, il a des devoirs à faire. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine pour le débrief de cette UFC 300. On va avoir une très très grosse émission. On va se régaler. Merci à tous. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.